Le peuple de Dieu m'aide à dire Amen.
Amen.
Que Dieu soit béni. On va relire une portion, puis on va faire la lecture de deux nouvelles pages.
Galates au chapitre 6e.
Chapitre 1er, verset 6e, je voulais dire. Jusqu'au verset 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Actes des Apôtres, chapitre 15. Verset 1 jusqu'au verset
2.
Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leur monteraient à Jérusalem vers les apôtres et vers les anciens pour traiter de cette question. Nous terminons avec 1 Corinthiens chapitre 15, du 1er verset au verset
4e.
Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que un Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, deux, qu'il a été enseveli, et trois, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Un autre évangile, une menace pour l'Église et les
morts.
Hier, en terminant notre intervention, parlant des quatre raisons d'être de cet enseignement, vers la fin, nous avons ouvert une brèche parlant de la notion de menace. Et nous avons expliqué le mot menace en deux temps. Premièrement, nous avons dit que menace voulait dire un ensemble de signes qui manifeste l'imminence d'un danger. C'est-à-dire quelque chose est prêt à arriver, qui peut mettre en danger l'existence ou la sécurité de quelque chose. Deuxième idée que nous avons mentionnée, parlant de menace, c'est crainte de l'arrivée de quelque chose de préjudiciable.
Ça veut
dire quelque chose qui peut apporter la nuisance. Et nous aimerions les répéter, il y a une menace sur l'église de notre pays. Et aujourd'hui, nous allons terminer l'étude de ce premier sous-point. Et en lisant Galates chapitre 1, verset
6
à
10.
Nous avons vu comment l'apôtre Paul fait ressortir et à la fois dénonce un phénomène déjà présent à son époque et qui s'est amplifié dans nos jours et surtout dans notre nation. La présence d'un mal. Et ce mal, il appelle un autre évangile. Trois choses ressortent en lisant Galates 1, 6 à 10. Qui montre déjà combien cela était un danger, une grande menace à l'époque. Et cela ressorte dans cette épître que Paul a eu écrite. La première chose, c'est la place que Paul fait occuper à cette recommandation tout au début de son épître. Juste après les salutations, il va droit au but. Il
ne
veut pas tergiverser parce qu'il sent que l'œuvre de Dieu est en danger. Et même en étudiant toute cette épître, on se rend compte que la raison d'être de cette épître virulente, c'était la protection de la sainte doctrine. Mais la deuxième chose qui ressort, qui montre combien il y avait menace et danger, c'est le jugement qui sort de la bouche de l'apôtre Paul, qui déclare de la part de Dieu, qui va s'attacher à toutes celles et à tous ceux qui apporte ce message déviant. Il répète deux fois.
Vis-à-vis
de ceux qui ont verset 7, il dit qu'ils troublent les croyants. Et deuxièmement, qu'ils renversent l'évangile.
Ce
jugement est répété avec force. À la fin du verset 8 ainsi qu'à la fin du verset 9. Un mot rare qui ne revient que 6 fois dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il soit anathème. Des mots durs. Et cette dureté est attachée à leur menace. La dureté qui sort de la bouche de Paul est liée à la chose essentielle qu'ils sentent qu'ils veulent détruire. Dans
1
Corinthiens chapitre 16, au verset 22, on retrouve les mêmes termes. Mais attaché à ceux qui n'aiment pas le Christ. Il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Ce mot anathème cache 5 idées. Quand il dit que ceux qui font ceci, ceux qui combattent l'évangile est vrai, la sainte doctrine qu'il soit anathème. Il veut dire premièrement qu'il soit maudit éternellement, mais de la part de Dieu. Quand il dit maudit éternellement, il veut dire que la colère de Dieu soit permanente dans leur vie. Deuxième pensée cachée derrière ce mot anathème, ça veut dire qu'ils subissent un jugement sévère et extrême mais de la part de Dieu. Troisième idée cachée derrière le mot anathème. Qu'il soit mis à l'écart. À la fois de la foi mais de la vie éternelle aussi. Paul, pourquoi tu souhaites que les gens soient mis à l'écart? Pourquoi tu n'as pas un message conciliant? Galates chapitre 5 au verset 12.
Galatia ya mitano, nzele ya zomi na mibale.
Sans que les termes soient cités.
Wana balobi yango te.
Il abonde presque dans le même sens.
Kasi azolo bapenza kolanda na nzela moko.
Puis ces gens être retranchés.
Ticket bato et ça la mette bato ba longwa.
Ceux qui mettent les troubles parmi vous.
Ba oyo bazo mema mobulu kasi.
Que la soustraction leur soit attachée.
Bango ba longwa.
Quatrième idée cachée derrière le mot anathème. C'est subir une condamnation irrémédiable et irréversible. Qui voue quelqu'un à la destruction et dans le temps et dans l'éternité. Et puis enfin, cinquième anathème cache l'autre idée. C'est subir l'interdiction divine. Être chassé de la présence de Dieu. C'est un peu quasiment ce qu'Apocalypse 20, 14. Et Apocalypse
20,
verset 8. Appelle la seconde mort. Être éloigné éternellement de la présence de Dieu. Une condamnation qu'il en trouve rarement dans la parole de Dieu. Et qui n'est pas toujours présent dans la bouche de l'apôtre Paul. Mais quand il s'agit de toucher la base de la foi, il ne tergiverse pas. Et il le répète à deux reprises pour montrer combien il insiste. Tout celui qui apporte un autre évangile, il subira les mêmes conséquences. Mais troisième chose qui ressort en lisant ce passage, c'est les rayons d'action de cette punition. Paul ne s'exclut pas lui-même. Il dit si moi-même, si un ange, si quelqu'un d'autre venait enseigner ces choses, qu'il soit anathème. Il parle des êtres physiques, mais même des êtres spirituels. Il dit même moi-même, c'est-à-dire je ne suis pas exclu. Si consciemment ou inconsciemment je prêche ces choses, et je renverse l'évangile, je subirai le même conséquence. Je le disais le premier jour. Je n'enseigne pas ces choses parce que je veux. Mais j'aimerais en même temps le dire. Comme on dit, celui qui pointe le doigt vers les autres, il y a trois doigts qui reviennent vers lui. J'ai conscience que moi-même, je ne m'exclus pas de ces choses. Et combien Dieu me jugera encore plus sévèrement, moi qui me suis levé ici et parlé de sa part. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, si quelqu'un d'autre vous annonçait un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. La grande question c'est, c'est quoi l'autre évangile? Qu'est-ce donc cet autre évangile? Et si on ose les toucher, on est condamné éternellement. On subit l'interdiction. Un jugement irréversible est sur notre tête. Avant de toucher les fonds et répondre à cette question, j'aimerais d'abord dire une chose importante, hyper importante même. Paul parle d'un évangile,
mais
il accompagne l'adjectif autre. L'adjectif autre qu'il utilise ici cache trois idées. Une idée principale et deux autres idées secondaires. La première idée, quand il dit autre, un évangile, mais qui est autre, il veut dire différent par les genres. C'est un évangile, mais pas du même genre. Deuxième idée, qui est la première idée secondaire. Ça veut dire différent soit par les fonds, ou soit par la forme, mais différent soit par les fonds et la forme. Il y a deux pensées là. Différent soit par les fonds, seulement,
kaka,
ou différent soit par la forme seulement, c'est-à-dire ayant le même fond que les vrais évangiles, mais la forme change. Ou alors même la forme et le fond changent. La troisième idée, qui est la deuxième idée secondaire, quand il dit autre, il veut dire d'un autre visage, d'une autre présentation. Et le mot autre évangile a aussi trois idées. Deux idées principales et une troisième idée secondaire. La première idée principale, lorsqu'il parle d'un autre évangile, il veut dire message qui change radicalement et fondamentalement.
Le
message 1 de Christ et 2 des apôtres en rapport avec le salut éternel. Message qui change radicalement et selon les fonds. Le message de Christ d'abord et des apôtres en rapport avec le salut éternel. Frères et sœurs, la doctrine biblique est basée, un, sur ce que Christ a enseigné et de deux, sur ce que les apôtres ont amplifié.
Bandeko, boyeko li Biblia e fandi na oyo Yesu asala.
Et quand nous parlons du salut éternel, quatre choses sont vues derrière. Les moyens de ce salut, les conditions de ce salut, les processus de ce salut et les conséquences de ce salut. Et j'aime ce que l'apôtre Paul rappelle. Et nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 15. Du premier au verset
4e.
Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Il ajoute au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout. Mais j'aime ce qu'il dit, comme je l'ai reçu. Je
ne
l'ai pas inventé. Ceux qui ont été avec lui ont dit, voilà ce qu'il a placé comme condition. Et il place les trois piliers de l'évangile vrai.
Un,
que Christ est mort pour nos péchés. Deux, qu'il a été enseveli. Et trois, qu'il est ressuscité. Et il veut dire, tout celui qui reçoit l'évangile est vrai. Il doit passer par ces trois étapes. Mourir avec Christ. Être enseveli avec lui. Avec les mauvaises manières. Et être ressuscité, nouvelle créature. Si l'évangile que tu as reçu n'amène pas la mort des vieils hommes, à l'ensevelissement des mauvaises habitudes et à la résurrection avec un changement de vie, alors tu n'as pas reçu l'évangile de Christ. L'évangile de Christ ne diminue pas les péchés. L'évangile de Christ nous change radicalement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la première idée principale.
Attaché
à ce que cela veut dire un autre évangile. Et par rapport à cette première idée, l'autre évangile fait souvent deux choses. Premièrement, il ajoute des choses. Et deuxièmement, il enlève les choses. Parmi les conditions, les moyens, les processus et les conséquences, élimine ou ajoute. L'un des premiers exemples de l'évangile est faux.
Actes
15, verset 1. L'église est encore naissante. L'église est encore naissante.
Il
avait dit, quelques sont venus de Judée. Enseignez les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Ils étaient en train de renverser l'évangile. Seigneur, épargne-moi d'être un renverseur de l'évangile. J'aimerais dire, si tu renverses l'évangile consciemment ou inconsciemment, tu te voues à la damnation éternelle. J'en parlerai demain. Non seulement tu seras perdu,
mais
un enfer des gens qui seront perdus à cause de toi.
Ils vont commencer à te taper. Tu vois tout ça à cause de toi. Nous sommes là à cause de toi.
L'esprit est sauvé, la chair peut pécher.
Toi, tu nous disais, commettez ce mal de péché, l'esprit est sauvé, la chair est pécheur.
Faux évangile.
Le maté à l'okuta, sans malam à l'okuta.
Je connais une grande doctrine.
Gana yebi malakisia nene.
Qui dit seul l'esprit est sauvé.
Kaka molimo mutebika.
Ils ont même des réunions.
Basana mayangani.
Qu'ils appellent la joie du samedi soir.
Ils fument,
ils boivent, ils commettent l'impunité entre eux. Ils disent tout ce que nous faisons là, ça ne touche pas les saluts.
Et
une fois sauvé, éternellement sauvé. Croyant ces faussetés, vous rendrez que c'est faux en atterrissant en enfer.
Et ça va le coûter.
Je dis yo terre ma komona ba luka on ali felo.
Toi, je te dis à toi qui prêches ces choses, on va te rechercher en enfer.
2 Timothée 2:19.
Mokande Timothée ami balé, mokapwa mi balé nzela ya
zo. Parlons de ce que l'évangile vrai doit produire.
Wana solo bana tina sango malamo ya solo esengeli ebota.
Quiconque prononce le nom du Seigneur.
Abitango bazako sakola kombo na Yesu.
Qu'il s'éloigne de l'iniquité.
Alfred
Coin dit,
Alfred Coin a solo.
Celui qui affirme appartenir à Christ, qu'il se détourne du mal. Il y a des messages hérétiques qui changent les fondements du vrai salut. Deuxième idée.
Caché
derrière le mot autre évangile.
C'est
un message qui non seulement change les moyens,
les
conditions,
les
processus et les conséquences du salut,
mais
surtout dilue et atténue les conséquences du salut. Le vrai salut s'accompagne par l'abandon du péché. Par la séparation d'avec le mal. Par un élan, une soif vers la sainteté. La ressemblance d'avec Christ. Dans 1 Pierre chapitre 1er. Verset 15 à 17. L'apôtre nous rappelle ce qui est et qui doit être notre vocation après le salut, le vrai.
Puisque
celui qui vous a appelé saint.
Vous
aussi. Soyez saints
dans
toute votre conduite.
Une
autre version dit dans tous les aspects de votre vie.
Selon
qu'il est écrit, vous serez saints. Car je suis saint.
Et
verset 17 ajoute.
Et
si vous invoquez comme père,
celui
qui juge selon l'œuvre de chacun,
sans
acceptation des
personnes,
conduisez-vous avec crainte. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage.
En
lisant Matthieu chapitre 7,
verset 21
verset
21
et
verset 23.
Lorsque Christ parle des personnes qui seront rejetées au temps de la
fin,
il met l'accent sur la pratique. Sur le style de vie, sur le vécu extérieur qui démontre une expérience intérieure. Il dit ce qui me dit Seigneur, Seigneur,
nous ne
rentrerons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Il y a des choses à faire. Celui qui fait.
Ah,
vous allez dire, il prêche le salut par les œuvres. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Au
verset 23, parlant de ce qu'il va répéter. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais ils commettent l'iniquité en disant Seigneur, Seigneur. J'aimerais te poser la question. J'aimerais me poser moi-même la question. Quelle est ta qualité de vie? Quelle est ma qualité de vie? Qu'est-ce qu'il y a de changé après que tu aies reçu Christ? Homme de Dieu, qu'allez-vous me dire en lisant les propos? Dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Ni les idolâtres. Ni les adultères. Ni les efféminés. Et là on vise les homosexuels. Ni les infâmes qui font des choses sales. Ni les voleurs. Ni les cupides. Ni les ivrognes. Ni les outrageux, ni les ravisseurs
mériteront
le royaume des cieux. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Il
ne
suffit pas de se reposer sur l'œuvre de Christ.
Après
que tu sois reposé sur l'œuvre de Christ, qu'est-ce qui suit? Tu viens à l'église, tu as reçu le message, mais tu triches avec le mari d'autrui. Tu viens à l'église, tu es marié, tu triches avec de petites filles, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu confesses Christ par la bouche, mais tu pratiques en coulisses l'occultisme. Tu lis je ne sais pas moi tous ces livres sales. Tu as un maître qui t'apparaît. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu mélanges l'évangile et les cabales juifs. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu confesses Christ par la bouche. Mais la nuit, tu as un avion DC-10 qui décolle. Nous, on ne le voit pas. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu te prétends chrétien. Mais tu as la capacité de te dédoubler. Tu pratiques la télépathie. tu n'hériteras pas le royaume des cieux à moins que tu ne te
répandes.
Ephésiens 5,
versets
5 à 6.
L'apôtre
dit, sachez le bien. Aucun impudique. Homme de Dieu. Tu prêches la grâce de Dieu, mais tu es impudique avec I
majuscule.
Ta spécialité, c'est de tomber avec des jeunes filles. Les faire avorter. Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Marié avec ta femme et tu continues à avoir des enfants à l'extérieur. J'ai été choqué un jour. J'arrive en Galie ma sainte. On me montre une jeune fille de 19 ans. On dit elle prie dans telle église. Elle vient d'avoir un enfant avec son pasteur. Et toutes les infirmières venaient vérifier. J'ai failli même citer les
noms.
Et la veille, le soir, à 22h, il vient.
On
dit chaque fois il vient quand il fait noir. Les gens ne voient pas, mais Dieu voit. Aucun impudique. Aucun impur. Aucun cupide. N'héritera le royaume des cieux. J'ai parlé un jour avec un aîné qui me dit comment il a été choqué. Il invite un homme de Dieu dans son église.
C'est
dans un pays de l'Afrique australe. Il est resté prêcher 3 semaines. Et de temps en temps, il dit, je le voyais avec 2 sœurs. Il avait déjà la cinquantaine.
30 sœurs, 24 ans.
Petite sœur, 19 ans. Je le voyais trop souvent parler avec la petite sœur. De manière pas bien.
Vous savez,
les gens, quand ils commettent les péchés, ils pensent que nous tous sommes des aveugles.
Il
dit alors que je m'apprêtais à l'appeler pour lui poser la question, qu'est-ce qu'il y a entre toi et cette jeune fille? Il dit un matin, l'homme de Dieu a fini de sa méditation. Il
dit,
a utilisé mon laptop pour lire ses messages. Les hommes du monde disent sur les 30 jours du mois, il y a
29
jours pour le voleur,
mais
il y a un jour pour le patron. La Bible dit ton péché t'atteindra.
Il
est venu, il a ouvert sa boîte.
Et
il
n'a
pas bien fermé. Quand l'homme de Dieu, le propriétaire, est venu, il a vu un message.
Il a été
poignardé.
Un
homme de Dieu que j'aime et à qui je fais confiance. Et je vois, c'est la grande sœur de la fille qui lui écrivait. Tel qu'on a fait hier et avant-hier à l'hôtel, c'était fantastique. Est-ce qu'on peut encore se retrouver aujourd'hui? Alors que lui, il soupçonnait c'était avec la petite sœur, il retrouve que c'est avec la grande sœur. Il est temps qu'il pleure.
30 minutes
après, on vient lui dire, la petite sœur te cherche. La
petite
sœur est rentrée en pleurant, en disant, ça fait au moins 5 fois que je suis allé avec cet homme. Et la chose qu'il aime, c'est surtout faire des rapports sexuels anormaux. Laissez-moi en parler, c'est la sodomie qu'il aime. Et là, il s'est rendu compte qu'il est venu pour enseigner l'évangile. Il a laissé sa femme, mais il sort avec et grande sœur et petite sœur. Tu peux enseigner n'importe quoi, le royaume de cieux ne sera pas pour toi.
Il y a des
gens à mettre en prison. Vous vous souvenez de ceux de
Philadelphie?
De cet homme de Dieu que j'ai mentionné, qui disait que lui était sauvé de là jusque-là. Mais de là jusqu'en bas, il avait besoin de la grâce de Dieu. Et je pose souvent ceux de Philadelphie la question, toi tu es sauvé d'où jusqu'où? Je
ne
te demande pas de poser la question à ton voisin. Mais l'homme auprès de qui j'ai appris l'évangile, il était sauvé de la tête aux pieds jusqu'à sa mort. Il disait, ça fait 50 ans je suis avec la même femme et je n'ai touché personne d'autre. Que des gens qui ne peuvent pas oser dire ça. Si tu oses dire ça,
man, ça va être
regardé. Et tu commences à dire, la grâce.
Sans la grâce,
que personne ne vous séduise, dit le verset 6.
Moto mon côté. Par
des vains discours.
Car
c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
Frères
et sœurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse et dire deux choses avant de continuer. Premièrement, je condamne le légalisme, ce n'est pas biblique.
Le
légalisme ramène le salut à ce que l'homme doit faire.
Le
légalisme dit fais et tu seras sauvé.
Non,
le salut biblique ne nous dit pas fais et tu seras sauvé.
Mais
le salut biblique dit parce que tu es sauvé, tu dois faire.
Le
légalisme attache le salut à nos efforts.
Mais
le salut biblique n'exclut pas notre part à nous.
Et
même dans cette part, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire.
C'est
pourquoi l'apôtre Paul dit : je puis tout par celui qui me fortifie. Dans le salut biblique, Dieu est l'acteur principal.
Qui
nous rend bénéficiaires des œuvres de tout ce qui est venu de la croix. Mais deuxième chose, j'aimerais condamner la présentation exagérée et biaisée de la grâce. La grâce est une doctrine biblique et on doit y insister.
Mais
la grâce ne veut pas dire licence. La grâce ne veut pas dire vie morale détériorée. La grâce ne veut pas dire vie désordonnée. J'aime comment l'apôtre Paul enseigne la grâce à son fils Tite. Dans Tite chapitre
2,
au verset 15, il dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Dans la version Alfred Coin, il est dit, voilà ce que tu dois enseigner. Dans quel sens il te faut encourager et corriger les gens? Et pasteur Véron, j'aime ce qu'il dit au verset 11 et 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais écoutez ce qu'il dit au verset 12. Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impureté. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Celui qui a réellement compris la grâce ne pêche pas. Celui qui a compris la grâce marche en nouveauté de vie. Si quelqu'un croit, c'est là qu'il m'aide à dire
Amen.
Écoutez ce que la version Alfred Coin, qu'est-ce que j'aime cette version. Elle dit la grâce nous éduque. Elle nous mène à nous détourner de tout mépris de Dieu. à rejeter les
passions
et les convoitises des gens de ce monde, à renoncer au plaisir. Elle nous enseigne à vivre dans le temps présent avec réserve, avec intégrité, avec maîtrise de soi et avec honorabilité. C'est ce que la grâce. Troisième idée, troisième signification de l'autre évangile. Et ça, c'est l'idée secondaire. L'autre évangile renverse les priorités. L'autre évangile renverse les priorités. Il fait des choses secondaires les choses prioritaires. Et il fait des prioritaires les secondaires. L'autre évangile parle du mariage, parle du visa, parle des enfants qu'on peut avoir, parle de l'enfant, de la prospérité, sans condition. Sans vie, sans crainte de Dieu. Toutes les promesses de la Bible sont au conditionnel. Si tu fais ceci, Dieu donnera ceci. Seigneur, épargne-moi d'attirer ces grandes foules simplement en prêchant les secondaires.
Avec
y chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données de surcroît. Si votre pasteur ne parle pas du royaume des cieux, faites attention, il ne vous aide pas. Deuxième chose que le faux évangile fait. Il ne parle plus. Il ne prépare plus le peuple de Dieu pour le grand rendez-vous, la rencontre avec Christ. Nous sommes pas appelés du haut de la chair à nous occuper seulement des besoins temporaires. Nous sommes appelés à nous occuper de l'éternité des gens. L'éternité des gens est principale. Toutes les autres choses sont secondaires. Est-ce que tu prêches sur le retour du Christ? Est-ce que tu parles du royaume à venir? Est-ce que tu parles du retour glorieux du maître? 1 Corinthiens 15:19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je prie Dieu que les femmes stériles à Philadelphie aient encore des enfants. Mais s'ils ont seulement des enfants et qu'ils n'ont pas la vie éternelle, j'aurais travaillé en vain. Je prie que les chômeurs à Philadelphie aient du travail. Mais si à cet endroit les gens n'ont que le travail et pas la vie éternelle, j'aurais travaillé en vain. Je prie que les jeunes filles à Philadelphie se marient. Mais si à Philadelphie vous n'obtenez que le mariage, pas la crainte de Dieu, pas le royaume des cieux, j'aurais travaillé en vain.
Dans Jean chapitre 6, versets 26 à 27,
la Bible nous parle de Christ qui a blâmé un groupe de gens qui couraient vers lui. Ils ont dit, nous te cherchons. Ils l'ont cherché partout. Et Jésus les a regardés droit dans les yeux. En vérité, je vous le dis. Vous les cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain. Et vous avez été rassasiés. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Le message commençait à aller de bouche à oreille.
Mon
ami gang, mon roi, comment ça va, mapa?
Eh, tipo, on a un somme. Attends, on a un somme.
Tu vas
faire seulement avec de l'eau.
Ça terrible.
Lui, il est terrible.
Vous savez combien de jours il était?
Tu as fait combien de jours tu n'as pas mangé?
Païne, pamba, pamba.
Là-bas, boulangerie même après.
Voilà, mais c'est autrement, monsieur le boulanger.
Ah.
Dans l'église est tondue.
L'église est remplie. Oh, Jésus.
Ils
sont venus nombreux aujourd'hui.
Là, il
était en train de prêcher, les gens disaient, arrête, arrête, le pain, le pain.
Seigneur, épargne Philadelphie d'être une église du pain seulement.
Kolobate la Philadelphie, c'est la lingomba yama pakakate.
Qu'est-ce que tous ces gens viennent chercher?
Bato nyo so baza koya kolukanini.
Attends, Ken, pasteur Véron, malheur à nous si nous apportons seulement le pain.
Pasteur Ken, pasteur Atoms, biso nyo so mawana biso so tozo pesa batuka ka mapa.
Allons au-delà.
Tole kasusu mapa tokende liboso.
Allons au-delà des besoins matériels.
Tokende tole kamakambo oyo bo senga oyo zomona.
Pour nous occuper des besoins essentiels.
Pwetol koksana lu bamposa oyo ya motuya.
Aux membres de l'église, je me redis.
Na bandimi ya lingoma na ikoloba.
Obtenir le temporaire et perdre l'éternel, c'est triste.
Soko sui biloko ya mokili po be bungisi bo konzi oya sek bo moya seko eza mawa.
Matthieu 16 au verset 26.
Matayi mokapo ya zomina motoba.
Jésus dira
que tukumi balena motoba.
Il dira que servira-t-il un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme.
Yesu atuni eko sala nini po na moto. Soko sui biloko nyoso pa bungisi molimo na ye.
J'aimerais aborder le deuxième point avant de clore et que nous puissions rentrer à la maison.
Nangiko bandali kambo oya mibale. Yamona suki sa tosonga na ndako.
Cause et origine de l'autre évangile.
Sina pe liziba ya sangomalamo mosusu.
D'où vient l'autre évangile?
Sangomalamo mosusu
est qui est derrière?
Nini esa sima na yango?
Derrière l'autre évangile, il y a toujours deux acteurs principaux.
Sima ya sangomalamo mosusu eza na basali mibale oya motuya.
Qui en sont les sources?
Oyo bangonde liziba na yango.
Le premier acteur principal.
Mosali oya liboso ya motuya.
Spirituel, invisible mais pas moins présent.
Oyo ya molimo tozo monete elingi koloba te tazate.
Tireur de ficelle en coulisses.
Ye muto azo bendaka basinga na sima.
Mais grand bénéficiaire de toutes les déviations doctrinales.
Kasi ye nemu tazo sepela na ndenge bato bazo pengwa.
C'est le diable.
Eza Zabolo.
Que Matthieu 13, 36 présente comme celui qui vient s'aimer livré.
Matthieu 13, 36, c'est l'axi loko la moto. Oyo ayeko kona bambou mamabe.
Et deuxième acteur.
Mosali yami balé.
Ce sont des acteurs humains.
Eza ba sali o batu.
Mais qui sont de deux types.
Bato baza lo lenge mi balé.
Il y a des acteurs conscients.
Eza na bato mosusu bazo sala ba na boye binyoso.
Il y a des acteurs inconscients.
Ka ba mosusu pe bazo sala bazo yeba.
Il y a des acteurs volontaires.
Eza na oyo baza ko sala ngona posa na bango.
Il y a des acteurs involontaires.
Pe ba mosusu bazo sala ngona posa na bango.
Et parmi les acteurs volontaires.
Pe na ba sali oyo bazo sala ngona posa na bango.
Qui sont derrière les faux évangiles.
Sima ya songo malamo ya lokuta.
Il y en a trois.
Eza na bango misato.
Premièrement,
ya yambo.
Des agents du diable.
Basali ya Satan
avec un numéro matricule dans son équipe.
Ba oyo ba pesa bango penza ba numéro le quoi ba ta fonction publique kasi ya Satan.
Qui se sont introduits dans la bergerie avec une mission.
Oyo ba koti kati na ndakwa ba pate.
On les appelle docteurs enseignants.
Ba benga bango molakisi.
Mais ils ont un maître, le diable.
Kasi basala molakisi na bango Satan.
Comme j'en ai parlé hier, qui se sont introduits. Quand ils enseignent les faux évangiles, ils les font avec la bénédiction, permettez-moi le terme, l'onction de leur maître.
2
Corinthiens chapitre 11,
au verset
13, parle des hommes qui sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, mais déguisés en apôtres de Christ. Il y en a plein. Et tout leur rôle, c'est d'enseigner les faux évangiles. Au verset 14 de ce chapitre,
Paul
dit, il n'est pas étonné qu'il y ait de faux apôtres. Puisque Satan lui-même se déguise aussi en ange de lumière. Dans
1
Timothée chapitre 4,
au verset 2,
Paul parle de faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Perdu éternellement. Et ils entrent dans la bergerie avec commission perdre le plus grand nombre. Écoutez ce que la version parole de vie dit. Des gens faux et menteurs. Qui ont une conscience marquée par l'erreur. Comme au fer rouge. Deuxième type de personnes parmi ceux qui enseignent l'erreur, pas volontairement et consciemment. Ce sont des personnes qui ont perdu des choses en cours des routes. Et qui se rendent compte qu'ils ne peuvent les retrouver. À cause de cela, ils adaptent l'évangile, les moyens et les conditions du salut à leur expérience. Je le disais hier, malheur à l'homme de Dieu qui change la doctrine selon son vécu. Non seulement ces gens se consolent avec les faussetés qu'ils enseignent, mais ils entraînent d'autres personnes. Et des fois, des innocents sincères les suivent dans la perdition.
Matthieu chapitre 23,
au verset
13,
Christ blâma un groupe de gens, dira: malheur à vos scribes et pharisiens,
plein
d'hypocrisie, parce que vous fermez aux hommes la porte du royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent
entrer.
Ils savent qu'eux-mêmes ils sont perdus. Alors ils enseignent des faussetés afin que derrière eux ils ne soient pas en solo en enfer. Ils recrutent des voisins pour l'enfer. Afin que l'endroit de perdition ne soit pas un endroit de solitude. Un aîné qui a plus de 45 ans dans le ministère, mais parlant dans son bureau il y a 8 mois, loin d'ici, m'a dit cette vérité que j'ai jamais oublié. Il a dit: jeune frère, ne perds pas la bataille de la vie et de la pratique des choses saintes, car cela risquerait d'influencer ton message. Il est rare qu'un homme continue à prêcher dans les domaines dans lesquels il tombe. Il dit la plupart des fois, moins tu es victorieux dans un domaine, moins tu en parles. Un pasteur infidèle n'enseignera jamais la fidélité dans son église.
Qui
fait avorter des jeunes filles n'en parlera jamais. Et son message devient sélectif. Et ce qui leur coûte reçoivent aussi un message amoindri. Parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. La foi pour le vécu et le partage vient de ce que l'on entend. Seigneur, aide-moi au soir de mon ministère à dire comme l'apôtre Paul devant les Éphésiens: je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Aide-moi à ne pas être sélectif. Troisième type de personne parmi ceux qui enseignent l'erreur consciemment. Ce sont des personnes travaillant au pied des hommes et des femmes qui font partie de la première et de la deuxième catégorie, qui travaillent auprès des hommes perdus, des infiltrés, ou qui travaillent au pied des hommes qui ont perdu des choses et qui n'arrivent plus à prêcher. Ces jeunes gens, ils sont pasteurs adjoints. Ils sont pasteurs stagiaires. Ils ont des problèmes avec les titulaires. Parce que le titulaire est défaitiste dans ce domaine. Si lui, il ose venir prêcher sur la fidélité, les lundis, il les ramasse. Sur ma chair, des choses comme ça, ça ne se dit pas. C'est moi qui ai reçu la vision. Et vous verrez des jeunes gens devenir aussi sélectifs. Et des fois, pour faire plaisir à son pasteur, il commence à prêcher le même message.
Je
n'ai jamais oublié un vendredi.
L'effet
pasteur Vernon avait laissé un jeune homme prêcher. Il avait préparé un bon message sur la bénédiction, il n'y avait rien de mal. Et lui et nous, nous ne savions pas que le pasteur Vernon allait venir. Il disait, j'aimerais parler des quatre bénéfices de la bénédiction. Premier bénéfice. Deuxième bénéfice, tous on était excités. Et puis depuis, du coup, le pasteur Vernon entre. Il commence la crainte de Dieu. Tout ce que je dis là, je voulais dire, craignez Dieu. On n'a plus entendu les deux autres
mots.
Pourtant, il y en avait quatre. Non, je ne prêche pas pour l'homme de Dieu, je prêche ce que Dieu m'a donné. Et que des jeunes gens obligés de s'aligner sur un message auquel ils n'adhèrent pas, auquel ils ne croient pas. Jean chapitre
5,
verset 19. Christ dira, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Deuxième type de personnes, et je vais clore ce soir. Ce sont des acteurs inconscients. Ils prêchent les faux évangiles, ce n'est pas volontaire. Et là, il y en a deux. Premièrement, les enfants spirituels du type de
Barnabas
qui sont naïfs, qui sont crédules, qui n'ont pas de jugement propre, qui croient que tout ce que les Céphas font, les Barnabas aussi doivent le faire. Galates 2:13 nous parle de Barnabas entraîné dans la fausseté.
Galates 2:13 elle a dit Barnabas n'a comme ko sala makambo a mabe
sans conviction.
Il est pas ndimisa mité
parce que Céphas le fait.
Kaka po Céphas azo sala.
Seigneur, si mon Céphas se détourne, moi je ne me détournerai pas.
Ceux qui Céphas nanga bungi ngai na ko bunga te.
Mais deuxièmement,
kasi ambabi balé
sont des enfants spirituels sincères.
Na bana molimo ya solo
qui n'ont connu rien d'autre que l'enseignement de leur père mais perdu.
À
la conversion, il n'a connu que ça. Quand il s'est converti, il s'est assis au pied d'un homme qui dit, tomber, c'est pas mauvais.
Chuter,
c'est tout ce qu'il a reçu.
5 ans,
10 ans, 20 ans, il n'entend que ça. Et il croit que c'est le vrai évangile. Et leur père spirituel, maintenant, il ne faut pas l'écouter ailleurs. Ici, il y a l'évangile pur. Et ils sont dans le mal sincèrement.
Acte 20,
verset 30 que nous avons lu.
Il y a deux jours.
L'abbé nous a parlé de ceux qui sortiront du milieu de nous. Pour entraîner les disciples après eux. Aux jeunes dans les ministères. J'aimerais vous dire trois choses. La première, priez pour votre leader. Priez pour votre pasteur. Car de sa constance dépend aussi à un certain degré votre constance à vous. Si dévie, vous risquez de dévier avec. Deuxième chose que j'aimerais dire aux jeunes dans le ministère. Vous n'avez pas l'obligation de suivre votre pasteur. Votre daddy ou votre mentor. En tout, même dans l'erreur.
Ephésiens
5, verset 11 dit. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais condamnez-les. Troisième chose que j'ai dit aux jeunes dans le ministère. Le premier mouvement et le premier réflexe. Lorsque vous constatez un dérapage, une déviation ou un début de déviation dans les chefs de votre leader, ça doit être la prière. La prière. Mais pas toujours la prière. Mais si possible, allez les voir. Discutez avec lui poliment. Mais fermement sur les Écritures. Mais si il ne veut pas vous écouter, ne continuez pas de rester à ses pieds. Parce que l'erreur transmet une onction. L'ADN de la perdition se transmet. J'aime ce que 2 Timothée 3:5 dit.
Il dit,
éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dans 1 Corinthiens 5. Au verset 11. L'apôtre dit ce que je vous ai écrit. Ce n'est pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ou ravisseur. Il
n'est
même pas mangé avec de tels hommes. Mais au vieux dans la foi, je dis aussi trois choses. La première, ne soyons pas de la doctrine de
Caïn.
Qui est la question de Dieu, où est ton frère Abel?
Abel
répondra dans Genèse 4, verset
9.
Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Frère, dans le ministère, Dieu a fait de nous les sentinelles les uns des autres. À Tom's Ken, Dieu vous posera la question, où est Roland?
À Tom's Ken, Nzamba kotuna bino, wapi Roland?
Faustin, Dieu te posera la question, où est Roland sur le plan doctrinal?
Faustin, Nzamba kotuna yo, wapi Roland? Nakola na Mateo ya solo.
Oh, kiaku, kiangani, kiangani.
Habite, ce qui m'appartient, m'appartient, ce qui lui appartient.
Nous sommes appelés à être gardiens les uns des autres. Hébreux chapitre 10, verset 24
dit:
veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité aux bonnes œuvres. Deuxième chose que j'ai dit aux vieux dans la foi: faisons attention à notre enseignement. Ce que nous pensons avoir compris. Ce que nous communiquons aux autres. Cela dépend de l'éternité des gens. Et même le salut de deux types de personnes. Écoutez cette parole profonde.
Il y a 1
Timothée 4. Verset 16.
Il dit à son
fils dans la foi, veille sur toi-même.
Kengela
yomoko. Mais aussi sur ton enseignement. Car en agissant ainsi, tu feras deux choses. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. La dernière des choses, et je
suis
vieux, j'aimerais dire, restons dans la saine doctrine. Dans les choses que nous avons reconnues certaines. Hébreux 13:9 dit:
ne vous laissez pas
entraîner par des doctrines diverses et étrangères. L'un de mes enseignants à Nairobi m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Il dit les mots clés qui étaient l'expérience de l'église primitive, c'était la persécution. Mais dit le mot clé qui sera la réalité de l'église des temps de la fin, ça sera la séduction. Ce soir, je n'aimerais pas chanter, je n'aimerais pas faire autre chose. Je
prie
simplement que nous puissions baisser nos têtes. Je prie que nous restions quelques deux minutes silencieux. minute mi balé na kimia kolobatie,
et que nous puissions méditer cette parole.
Tokanisa makambo elobami,
et après quoi le pasteur Ken qui s'avance va
prier. Si ma pasteur Ken akoya pe akobonde.